Alors aujourd'hui c'est vendredi, disons plutôt, c'est, si vous n'avez pas une dévotion spéciale à la déesse Vénus, là, le sixième jour, et on a tourné une page hier, on va quitter ces splendides paysages du sud, on va remonter la Araba jusqu'à la mer Morte et on va se trouver au point le plus profond du globe et on va descendre au plus profond de nous-mêmes aussi. C'est la meilleure préparation à la nouvelle alliance dans laquelle nous allons évoluer par la suite. Alors on a une journée importante à vivre et on va, pour mieux la vivre intensément à l'écoute de la parole de Dieu, commencer par le principal, par la prière. Je serais content que tu nous chantes in extenso là, ce psaume invitatoire que normalement, et qui commence tous les jours, la liturgie des heures.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Alors hier, à ce même endroit là, nous avons lu le chapitre 8 du Deutéronome qui résume pas cette expérience fondamentale où le peuple élu a trouvé son identité dans la rencontre et puis dans l'apprentissage de l'action de grâce qui est la clé de l'harmonie universelle. Vous vous rappelez ce qu'on lisait là? Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Tu te souviendras. Eh bien écoutez maintenant ce que dit le prophète Isaïe. Ne vous souvenez plus des événements anciens. Ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Déjà, elle pointe à l'horizon. Ne la reconnaissez-vous pas? Je dis ça parce que, voyez-vous, le jeu de la mémoire dans la Bible. On ne se tourne vers le passé que pour aller vers l'avenir. Le jeu de la mémoire. Je dis ça pour commencer parce que, voyez-vous, ces paysages splendides dans lesquels nous sommes. Regardez, ils sont très beaux hier soir au soleil couchant. Ils sont aussi beaux ce matin au soleil levant. D'une certaine manière, le plus beau est déjà derrière, qu'on a fait le plus beau. De fait, les paysages qu'on va parcourir, on va se trouver dans la sinistre Araba bientôt, dans la mer Morte. C'est vrai que la Galilée, au printemps, avec les fleurs, cet éclaboussement de fleurs, là, c'est extraordinaire. Le mont Hermon, où il y a encore de la neige maintenant, mais c'est déjà moins beau. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va devenir de plus en plus difficile de se concentrer sur à Jérusalem, parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à dire, c'est le plus dense, et c'est là que on a le moins la complicité qu'on a du terrain, de la géographie. Plus on avance, moins le terrain est complice de l'expérience que l'on fait, et plus l'émerveillement qui s'est rééduqué ici est appelé à s'exercer maintenant dans la banalité de l'existence, d'inviter de l'existence. Bon, mais ceci dit, dans la Bible, on va toujours vers un plus, et le royaume vers lequel nous marchons sera plus beau que tous les paradis perdus que nous laissons derrière nous. Et on va vers du nouveau. On va vers du nouveau. Le prophète Isaïe parle d'un nouvel exode qui fera sortir le peuple élu, non plus d'Égypte, mais de Babylone, et qui le fera traverser d'autres déserts, non plus le Sinaï, pour revenir en terre promise et à Jérusalem. Alors, on va vers du nouveau. Nous venons de chanter le psaume 95, là, qui est le plus long texte de l'Ancien Testament cité dans le Nouveau. Il y en a un autre qui lui fait concurrence. C'est précisément le texte de Jérémie qui parle de la nouvelle alliance, et que je vous lis maintenant. C'est dans l'Épître, il est cité aussi in extenso dans l'Épître aux Hébreux. « Voici venir des jours, oracle de Dieu, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je l'ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle de Dieu. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de Dieu. Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Et on va vers une nouvelle alliance et on peut suivre quand on survole l'Ancien Testament. Les étapes par lesquelles on est arrivé à cette conviction qu'il fallait pour qu'on en sorte une nouvelle alliance qui ne serait vraiment qu'une nouvelle création où la loi serait écrite dans le cœur. Voyez-vous, l'alliance se présente au fond d'abord comme une espèce de contrat synalagmatique. Si vous accomplissez la loi, alors j'accomplirai aussi les promesses de l'alliance. Et puis au fur et à mesure que l'on avance, il y a une espèce de refrain. Enfin, le peuple fait l'expérience de l'infidélité, comme nous tous. Et puis, de l'infidélité, il passe à l'esclavage. Il tombe dans l'esclavage. Du fond de l'esclavage, comme au temps où il faisait des briques en Égypte, il crie vers Dieu. Et puis Dieu leur envoie un sauveur et s'opère une délivrance. C'est une espèce de refrain rédactionnel qui parcourt toute la Bible quand on lit le livre des juges, le livre des rois. Mais vient un moment alors où ce rythme s'accentue. Lorsque le peuple est déporté à Babylone, alors il n'est plus qu'ossement desséché, c'est un véritable anéantissement. Et il se rend compte que pour en sortir, il faut une nouvelle alliance. Et Ézéchiel, qui est presque contemporain de Jérémie, parle le même langage. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes coutumes, et alors vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et il illustre toute cette théologie de la régénération nécessaire, de la nouvelle création par l'eau et par l'esprit, par la célèbre vision des ossements desséchés. Nous lirons tout à l'heure peut-être au point le plus sinistre et le plus bas du globe. Prophétise sur ces ossements et qu'ils vivent. Une nouvelle alliance. Et alors, on se demande comment ça se fait que Dieu reste comme ça fidèle alors que nous, nous ne sommes pas fidèles, et on cherche les motivations pour lesquelles Dieu reste fidèle. Le premier motif, c'est qu'il faut qu'il respecte l'honneur de son grand nom, pas qu'il risque d'être profané parmi les nations qui vont se moquer de lui s'il ne réalise pas malgré tout les promesses qu'il a faites. Et puis on se rend compte que c'est par amour. Et on se rend compte qu'il fait ça par un amour purement gratuit. Un amour qui veut renouveler, de telle sorte qu'ensuite il y ait des épousailles encore plus belles que les fiançailles originelles. Lisez le prophète Osée, je n'ai pas le temps de tout lire tout ça. Un amour gratuit qui va présider à une nouvelle alliance qui ne sera rien moins qu'une nouvelle création. Et alors cette théologie de la régénération nécessaire par l'eau et par l'esprit va être reprise au plan personnel. Et vous connaissez tous ce psaume qu'on a mis dans la bouche de David après son péché avec Bethsabée et puis le meurtre de Uri, le mari de Bethsabée. Il dit « Crée en moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit nouveau. Lève tahor bera li Elohim. » Vous voyez le même « bara ». Bereshit bara. Il faut rien moins qu'une nouvelle création. Et puis quand on parle de Chiddush HaOlam, pas dans le langage juif, c'est aussi une nouvelle création. Il faut rien moins qu'une nouvelle création qui sera due comme la première à un amour purement gratuit. Vous savez qu'on a dû lutter contre certaines philosophies platoniciennes quand on a essayé de penser la révélation avec des catégories platoniciennes, pas le bien diffusif de soi, comme si Dieu avait été obligé de créer parce qu'il était bon. Maintenant, c'est par un acte gratuit, pas que Dieu a créé, et il faut maintenant qu'il recrée par un acte gratuit, un amour purement gratuit. Et David, cet appel à une nouvelle création de son cœur, il le fait après avoir confessé, lorsque Nathan vient l'interpeller. Vois, mauvais je suis né. Pécheur, ma mère m'a conçu, tu aimes la vérité au fond de l'être. Et nous allons aujourd'hui descendre au point le plus profond du globe. Pas la mer morte qui est à 400 mètres en dessous du niveau de la Méditerranée, c'est le point le plus profond du globe. Mais vous allez voir que ce n'est qu'une invitation. C'est formidable comme la géographie de ce pays parle. On dirait qu'elle est faite pour une prédication nouvelle qui s'étendra maintenant aux quatre coins du monde, sur cette terre qui crie la parole de Dieu, indissociablement Ancien et Nouveau Testament. Alors, après avoir pris notre être dans cette virtualité originelle au commencement, vers le sud, eh bien, nous allons prendre maintenant notre être au plus profond, comme l'a fait David dans ce psaume que je viens d'évoquer, tu aimes la vérité au fond de l'être. Et cette descente que nous allons faire au point le plus profond du globe, c'est une invitation à descendre au point le plus profond de nous-mêmes, pour appeler aussi une nouvelle création. Il s'agit de faire un détour, non pas seulement en surface, comme le petit détour que nous avons parlé l'autre jour, pour être sur la trajectoire de Dieu qui passe, il faut faire un détour en profondeur, et c'est là que Dieu nous attend. Nous avons besoin tous d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle création. Et alors, en descendant vers la mer morte, nous allons passer à un endroit où le paysage nous invitera à lire toute une série de textes, dont l'histoire du serpent d'airain. Et où est-ce qu'on parle du serpent d'airain dans le Nouveau Testament ?
C'est pas le livre des Nombres ?
Non, mais dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament.
Ah, dans le Nouveau Testament,
Où est-ce que Jésus parle du serpent d'airain ?
C'est quand il parle de sa croix, très proche.
Oui, mais j'ai posé une fois la question, il y avait quatre séminaristes dans le groupe, des Bretons, et il n'y en a pas un qui a répondu, ça m'a rendu perplexe sur le niveau des études dans les séminaires. Où est-ce qu'on parle du serpent d'airain dans le Nouveau Testament? Quand même, dans l'entretien avec Nicodème. Alors je vous évoque ça. Vous vous rappelez Nicodème? Nicodème est un personnage très respectable, un notable, et un pharisien. Et la religion pharisienne est très très haute, très très noble. C'est pas en rabaissant, en caricaturant le pharisaïsme qu'on va valoriser le christianisme. C'est une erreur. Et là, il vient trouver Jésus de nuit. Il n'a pas envie de se compromettre. C'est raconté au chapitre 3 de Saint Jean. Oui, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus, alors, directement va au fond du vrai problème. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut. Anoten, ça peut vouloir dire de nouveau ou d'en haut, en grec, les deux à la fois. Nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et on dirait que Nicodème n'a pas saisi toute cette théologie de la régénération nécessaire par l'eau et par l'esprit, et dont on prend conscience tout au long de l'Ancien Testament, progressivement. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Vois, mauvais, je suis né. Crée en moi un cœur pur. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors Nicodème comprend toujours pas. Comment cela peut-il se faire? Et Jésus a cette phrase terrible. Tu es maître en Israël et ces choses-là, tu ne les saisis pas. En vérité, je te dis, nous parlons de ce que nous savons. Et alors c'est un petit peu plus loin qu'il parle de Moïse qui éleva le serpent dans le désert. Ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Or nous allons vers ce évoqué aussi Nicodème. Et vous sentez que nous nous préparons déjà aujourd'hui, en faisant cette descente au point le plus profond, au passage que nous ferons demain, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est pas une autre alliance. C'est Dieu qui reste fidèle à son alliance unique, mais alors elle prend l'aspect maintenant d'une nouvelle création, et nous devons disposer tout notre être à crier vers cette nouvelle création dont nous avons tous besoin pour entrer. Nul n'entrera dans le royaume s'il n'est pas bénéficiaire de cette nouvelle création. Et vous sentez qu'il y a ici le clivage au concile de Jérusalem, le premier concile de l'histoire de l'Église, Saint Pierre, qui incarne la fraction juive de l'Église, dit cette loi, c'est ce joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons vu la force de porter. Et alors c'est Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, mais encore plus clairement dans l'Épître aux Romains, qui parle de cette nécessité. Paul, pharisien, de la tribu de Benjamin, circoncis du huitième jour, hébreu, fils d'hébreu, zélateur de la loi, renversé sur la route de Damas, et qui dit, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais d'accord avec la loi qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, le vouloir, le bien est à ma portée, mais non pas à l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. Je me complais dans la loi de Dieu, du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de la raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et voilà cette évolution que nous allons faire aujourd'hui. Il s'agit de pas que la loi ne s'impose plus à nous comme un surmoi tyrannique de l'extérieur, mais que la loi de l'extérieur passe à l'intérieur et qu'on obéisse à la volonté de Dieu dans les spontanéités de la liberté. Paul crie tout dinis amatores, des amoureux de beauté spirituelle, non plus comme des esclaves sous la loi, mais comme des êtres libres dans un régime de grâce. Le père Congar, dans ses couvailles, une comparaison dont je me souviens toujours, il dit dans les lois que nous découvrons dans la Bible, dans la révélation, sont les mêmes que les lois qui est dans la nature. Et en gros, dans la nature, les êtres, d'abord, n'ont rien de solide. Ensuite, ils ont un solide, mais qui est à l'extérieur, hein, comme les escargots, comme les tortues. Mais les tortues, il y a déjà un petit squelette. Hein. Mais heureusement qu'elle a une carapace, parce que ça n'irait pas loin. Et alors, au fur et à mesure qu'on avance dans l'évolution, bah, le solide de l'extérieur passe à l'intérieur. On arrive aux vertébrés. Et alors, les vertébrés, ils peuvent sauter, ils peuvent danser, ils peuvent courir, ils peuvent voler s'ils ont des ailes. Voyez. Et bien, dans l'évolution spirituelle, nous avons tous à nous situer. Il y a des chrétiens de l'Ancien Testament, comme dit Pascal. Et on a tous peut-être, moi qui ai reçu une éducation traditionnelle, je l'ai reçu un petit peu comme une espèce de carapace. Mais on peut caricaturer tout ça et en rire, mais cette carapace permet au squelette de pousser à l'intérieur. Et puis petit à petit, normalement, par la loi qui s'impose de l'extérieur, tous ces règlements-là, on s'aperçoit que c'est comme une partition musicale que nous sommes appelés à jouer dans les spontanéités de la liberté. Et alors on passe par de la loi et inscrit dans le cœur nous accorde à la volonté divine et on obéit à Dieu pour épanouir ce qu'il a mis de meilleur quand il nous a créé à son image et à sa ressemblance. La loi, c'est la sagesse qui joue devant Dieu et qu'on est appelé à jouer aussi dans notre existence. Bon, ben, vous voyez, on a beaucoup de choses à méditer aujourd'hui. On va prendre le départ en regardant encore ces paysages ici. Il faudrait encore y rester une heure ou deux dans le silence. Mais on va vers du nouveau.